Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour. Au menu ce mois, d'abord le dossier sur la filière bois, avec Jean-François Chorin, conseiller départemental et délégué à la filière bois, et puis Pierre-François Gencial, co-gérant d'une entreprise familiale de travaux forestiers. Nous irons sur le terrain avec Clément Monsignor. Un coup de projecteur sur les Restos du Cœur qui ont effectué la collecte 2022 les 4, 5 et 6 mars derniers. Nous entendrons Henri Baudouin, président des Restos du Cœur de la Loire. Il répond à Lucas Laubert. Et puis un portrait à travers un beau témoignage d'un ancien de la première division de la France libre, seul survivant à 97 ans de cette unité dans la Loire.
Loire Mag, le dossier.
La filière bois dans notre département emploie près de 7000 personnes dans des métiers très divers qui vont de l'exploitant forestier à l'architecte. Jean-François Chorin est conseiller départemental dans le canton du Pilat et maire de Marle. Il est aussi co-gérant d'une entreprise familiale de Syrie dans le Pilat. Il nous guide à travers cette filière bois, pas encore assez connue.
À peu près un tiers de la surface de la Loire est boisée. C'est à peu près dans la moyenne nationale. Donc moi je suis conseiller départemental du Pilat, donc sur le canton du Pilat, c'est 50% à peu près de surface boisée au niveau du territoire du Pilat. Ça monte même dans des communes comme le Bessat, par exemple, à plus de 80% de forêt.
Un arbre, on pourrait presque dire que ça pousse tout seul. Pour autant, il y a tout le côté gestion. Qu'est-ce qu'on fait avec une forêt? Quelles essences il vaut mieux planter que d'autres sur le territoire où l'on se trouve, par exemple? Quand est-ce qu'il faut couper? Quand est-ce qu'il faut vendre? Tout ça, ça ne s'improvise pas. Or, un certain nombre de gens deviennent propriétaires de forêts, souvent par succession.
Tout à fait. On sait ce que c'est que l'agriculture, par exemple. On sait moins bien ce que c'est que la sylviculture. La culture de la forêt, c'est un métier. La forêt a un rôle au niveau environnemental très important dans l'équilibre de notre planète. Les arbres en croissance absorbent le gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. Quand on dit que la forêt est un poumon, c'est sûr. Et sauf que pour qu'elle soit véritablement un poumon, il faut que les arbres soient en croissance. Donc il ne faut pas des arbres qui sont matures et qui sont arrivés à leur taille maximum et qui sont très, très vieux. Il faut les abattre pour laisser passer de la lumière et l'eau aussi, pour que les arbres jeunes dessous puissent croître. C'est ça le métier de la sylviculture. On ne plante jamais un sapin. Il suffit d'enlever ceux qui sont trop gros et qui font trop d'ombre.
On éclaircit un peu la forêt.
On éclaircit, effectivement.
Parfois, on s'attache à ces arbres anciens dont on se dit qu'ils ont vu les générations d'avant, bien sûr. Vous pouvez le comprendre, ça, quand même ? Jean-François Chorin, qu'on se dise, du temps du grand-père ou de l'arrière-grand-père, il était déjà là, cet arbre. Du coup, on n'a pas envie de le couper.
Oui, mais je pense que le plus important, c'est de laisser des arbres en bonne santé à nos enfants et à nos petits-enfants. On bénéficie de ce qu'ont fait les générations passées. Donc, il faut qu'on ait à cœur de faire ce qu'il faut pour que les générations futures puissent bénéficier de la même forêt que nous.
Alors parlons de cette filière forêt-bois à laquelle vous êtes délégué en tant que conseiller départemental, Jean-François Chorin. Ça représente beaucoup de métiers différents qui sont concernés et qui vivent ici, du coup, sur le département de la Loire, grâce à la forêt.
Voilà, c'est une filière importante. C'est 1800 entreprises sur la Loire et 7000 emplois. Et il faut qu'on la développe, cette filière, parce qu'on a été un peu frileux. On n'a pas la culture, par exemple, par rapport à des pays comme la Suisse ou l'Autriche, qui utilisent bien mieux cette ressource naturelle, durable, ce qui est à nos portes. Et donc, on a besoin que des jeunes viennent dans nos métiers, découvrent ces métiers parce qu'ils ne les connaissent pas. Et puis, peut-être, s'il y en a qui s'intéressent, ils se forment. Il y a plein de métiers différents, vous avez dit. Donc ça commence déjà par les propriétaires, donc les sylviculteurs. Au niveau de la gestion forestière, je pense que j'aime bien dire que c'est un métier d'avenir. Puis je trouve que c'est un beau métier, parce que pour quelqu'un qui veut vivre dans la nature, en respectant la nature, eh bien, gérer la forêt, c'est quand même, il me semble, un métier qui peut inciter les jeunes à s'y lancer. Alors c'est vrai pour les gestionnaires forestiers, c'est vrai aussi pour les entreprises de travaux forestiers, donc essentiellement ce qu'on appelle plutôt les bûcherons, qui abattent les arbres. Donc. Tout à l'heure on parlait de gestion forestière, vous disiez d'éclaircir, effectivement. On appelle cette culture, le jardinage.
C'est un peu inattendu, mais pourquoi pas?
Si on parle de futaies jardinées pour le sapin, et donc on jardine, c'est-à-dire qu'on enlève les plus gros, les trop gros, ceux qui empêchent les autres de pousser, et puis on enlève aussi, il y en a qui peuvent être renversés par le vent par exemple, ou malades aussi, hein. Il peut y avoir des, notamment avec les déficits hydriques, hein, des sécheresses ou l'élévation de la température, ça peut faire mourir des arbres, donc à ce moment-là il faut les enlever. Et celui qui coupe les arbres, c'est le bûcheron donc. Et j'aime bien dire que, plutôt que de l'appeler le bûcheron, on devrait plutôt l'appeler le jardinier de la forêt. Je trouve que c'est plus positif. On va dire que les bûcherons, ils coupent eux en travers. Hein. Nous, on coupe dans l'autre sens, les scieurs, donc c'est un métier. Entre les deux, il y a les grumiers, les transporteurs. Hein. C'est un métier aussi bien spécial. Hein. Et les scieurs, après, bon, maintenant, c'est plus des machines mécanisées. C'était des métiers qui ont la particularité ou la réputation d'être physiques. Maintenant, dans les scieries, par exemple, c'est de moins en moins. Et avec tous les engins de manutention qu'on a, et puis après donc la scierie, on parle d'industrie de première transformation, il y a tous les métiers de la deuxième transformation, c'est-à-dire qui transforment les sciages qu'on a produits en scierie, eh bien ils sont transformés par le menuisier, le charpentier, l'ébéniste. Ça fait travailler des bureaux d'études, des architectes, parce qu'on construit de plus en plus en bois. Donc il y a toute une panoplie de métiers différents et qui se complètent. Et pour que la filière fonctionne correctement, eh bien, il faut que tous ces métiers soient pourvus. Quoi. Si j'ai un rôle, moi, en tant que conseiller départemental, je voudrais bien qu'au moins les Ligériens, si on parle forêt, ils me disent forêt du Pilat, ou forêt du Forêt, enfin de Noir-Étable, ou les Monts de la Madeleine pour le Rouennais. On a plein de forêts. En tant que scieur, je fais partie de FIBOIS 42, l'interprofession de tous les métiers, donc de la filière bois. Ça rassemble des propriétaires jusqu'à l'architecte. J'ai été président de cette association pendant un certain temps. J'ai transmis la présidence à Aline Duverger. Elle est architecte et c'est une passionnée de l'utilisation de la forêt. Donc on a, je trouve, une responsabilité vis-à-vis de cette ressource naturelle. Si elle est là, ce n'est pas que pour faire joli. Et puis pour qu'elle fasse jolie, cette forêt, même au niveau paysager, il faut qu'on l'entretienne et que l'homme il amène son savoir-faire pour le bien de tous. Quoi. Dans cette filière, on est tous ensemble sur cette terre même. Hein, il faut gérer cette forêt du mieux possible pour le bien de la planète. Pour le bien de la planète, c'est indispensable.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Dans la filière bois, il y a beaucoup de personnes sur le terrain, bien sûr, en forêt. Et c'est le cas de Pierre-François Gencial, co-gérant d'une entreprise familiale qu'il décrit au micro de Clément Bonsignor. On les retrouve du côté de Rochetaillé et Clément est encore un peu essoufflé.
Pierre-François Gencial, merci de nous recevoir. Alors plutôt chez vous, là on va le dire. Vous êtes donc le co-gérant de l'entreprise Gencial Travaux Pilat.
Voilà, on est une petite entreprise de travaux forestiers, une petite entreprise familiale basée sur la Valangier dans le Pilat. Trois frères associés. On a repris la suite de notre père. Voilà. Donc nous, on fait beaucoup de prestations, c'est-à-dire du travail en forêt, de la coupe de bois, du débardage, du nettoyage de parcelles pour la replantation, d'ouverture de pistes forestières. Et puis nous proposons pas mal, on alimente une vingtaine de chaufferies sur tout le bassin de Saint-Étienne Métropole, là. Des chaufferies qui chauffent aux copeaux de bois, aux plaquettes forestières.
Là, on voit la machine. Alors, on va être honnête, on a essayé de se trouver, mais c'est vrai que le terrain est du coup un peu accidenté. Qu'est-ce que vous y faites ici, précisément?
Alors ici, c'est ce qu'on appelle une préparation de sol avant plantation. C'est une parcelle qui a été coupée parce que les herbes séchaient. Donc elle a été coupée à blanc, rasée, coupe rase comme on l'appelle. Et là, je la nettoie, c'est-à-dire que je fais des semblants de roules de branches. Et je fais des potets, des trous pour où c'est qu'il y aura les futurs arbres. Avec un espacement d'environ 3 mètres de l'un à l'autre. Ce qu'on appelle faire des potets travaillés à la pelle. Voilà. Mais là, j'ai une pelle qui est spécifique. C'est une pelle araignée qui est capable d'aller dans les terrains très escarpés, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas tout plat. Donc voilà, on peut aller jusqu'à 100% de pente, 45 degrés avec une pelle comme ça.
Il y a beaucoup de jargon technique dans ce que vous employez.
Ah ben, comme dans tout métier, oui, c'est spécifique. Et puis nous, la forêt, tout le monde la regarde, mais personne ne la regarde de près vraiment. Donc personne s'arrête trop pour regarder nos machines. C'est des machines qui sont hyper sophistiquées et qui sont super intéressantes, qui sont modernes. Toute la filière est un peu comme ça. On a des machines en Syrie, il y a des cubeurs électroniques. On peut dire qu'on a la pointe de la technologie, mais si, c'est, on croit l'image du bûcheron et de la hache, il faut la sortir de sa tête et puis. Et puis, il faut venir voir presque comment on travaille et ce qu'on fait. Ouais.
Il faut le vouloir pour arriver où nous sommes là, à proximité de Rochetaillé. Mais si on prend la route, c'est vrai qu'on va tendance à avoir à se dire comme tout le monde, finalement, ah bah, y a une coupe à blanc, on enlève des arbres. Voilà. Mais c'est bien plus que ça.
Je ne vais pas dire qu'on fait pas de bêtises dans la filière, mais 90 ou 95% du temps et des cas de parcelles, elles sont rasées, et qu'il y a une raison pourquoi on la rase. Soit, comme ici, les arbres étaient en train de sécher, donc soit on laisse sécher un massif complet et après ça se propage dans les autres arbres, soit ben, on intervient et on purge la parcelle sinistrée et après il faut la replanter. Donc c'est sûr que la première année, ben, ça fait vilain parce qu'on était habitué depuis 40 ans à voir ces arbres qui ont disparu en l'espace de un mois. Mais si vous revenez dans 10 ans, vous verrez qu'il y aura à nouveau une forêt, une petite plantation d'arbres.
Et il y a, je suppose, tout un processus, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont en amont repérer que cette parcelle est en train de mourir, on peut le dire comme ça, et puis il faut appeler les bons acteurs nécessaires.
Exactement. Alors ici, c'est un peu particulier parce que c'est les forêts de Saint-Étienne, ça. C'est l'Office national des forêts qui la gère, cette parcelle. Donc, avec les moyens qu'on a, et puis c'est assez facile de voir une forêt quand elle commence à dépérir, donc les arbres ils rougissent et ils perdent les épines. Faut savoir qu'un résineux, une fois qu'il a perdu ses épines, il crève, à part le mélèze qui perd annuellement toutes ses épines. Donc là, le protocole, ben, ça a été de faire une étude, d'avoir une autorisation de couper cette parcelle, donc, qui a été validée par la DDT. Ensuite, cette parcelle a été rasée, et puis maintenant, le technicien de l'ONF a établi un protocole où, avec le réchauffement climatique, quelle essence serait la mieux adaptée à ce terrain-là, suivant l'exposition et puis la qualité du sol.
Un mot, effectivement, si vous le voulez bien, Pierre-François Gentiel, sur l'emploi dans la filière. C'est vrai qu'on se dit beaucoup, là, en ce moment, il manque de travailleurs un peu partout. C'est le cas aussi ici. Il y a des bons débouchés.
Il y a du travail. Il faut s'y intéresser, il faut aimer. Il faut aimer être assez seul. C'est un peu... Moi, vous voyez, je suis tout seul dans ma machine. Maintenant, pour rien au monde, j'irai travailler en centre-ville avec une pelleteuse, faire des tranchées ou quelque chose. Regardez, quand on arrête la machine, on a quand même un paysage et un bureau qui est agréable. Hein.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Lors de la dernière campagne, les bénévoles des restos ont distribué 142 millions de repas en France et ont accueilli et accompagné 1,2 million de personnes. Les plus jeunes sont particulièrement concernés puisque les moins de 25 ans, nous disent les Restos du Cœur, représentent la moitié de ces repas, les mineurs, eux, 40%. Il y a un mois, donc, les bénévoles des Restos du Cœur étaient mobilisés dans les magasins et les grandes surfaces pour la collecte nationale 2022. Comme partout en France, les bénévoles dans la Loire ont répondu présents. L'occasion de s'intéresser à ce que représentent les restos dans le département. Pour en parler, Henri Baudouin, président des Restos du Cœur de la Loire, répond à Lucas Laubert.
Bonjour Henri Baudouin. L'élan de solidarité qui est provoqué par les Restos du Cœur, ça reste inchangé au fil des années.
Ah oui, c'est même accru, je dirais, du fait de la pandémie. On le voit par les dons, la quantité de dons que nous avons reçus sur 2020-2021. Et les dons ont doublé par rapport aux années précédentes. Donc ça montre bien l'élan de générosité des Français, quoi.
Les bénévoles aussi sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux à vouloir aider et donner de leur temps au resto.
Alors ils sont moins nombreux. Nous avons moins de bénévoles qu'avant, puisque... Du fait de cette pandémie, donc pas mal de bénévoles d'un certain âge ont souhaité se mettre en retrait, se protéger, ce qui est normal. Du coup, donc, on était passé, pour vous donner un ordre d'idée, de 600 bénévoles avant la crise sanitaire à 400 à peu près l'année dernière. Et là, on est remonté à un peu plus de 500.
Alors, on peut faire peut-être un petit point sur les chiffres des Restos du Cœur dans la Loire. Aujourd'hui, les restos, ça représente quoi un petit peu pour que les gens se rendent compte de l'impact que ça a?
Alors, dans la Loire, oui, nous servons 1 100 000 repas par année.
C'est énorme.
Dans la Loire, voilà. Ça, c'est très parlant, je pense, à environ 11 000 personnes. Donc, ça représente en gros 6 000, 6 500 familles que nous aidons donc dans toutes les régions du département, en fait, hein, puisqu'on va de le centre le plus au sud est Macla, et le plus au nord, c'est Roanne. Et entre-temps, ben, on a effectivement 16 centres répartis dans tout le département.
Et ce nombre de bénéficiaires, il augmente ?
Non, il n'augmente pas. C'est très curieux, il est plutôt stable. Alors, il a même baissé l'année dernière, en pleine pandémie. Hein. On n'explique pas encore trop le pourquoi. Parce que, bon, est-ce que c'est effectivement que les gens n'ont pas voulu prendre de risque d'attraper le virus en venant dans un centre restaurant du cœur ? C'est possible. Est-ce que ce sont des personnes accueillies qui ont dû retourner dans leur pays, qui du coup, du fait de la fermeture des frontières, n'ont pas pu revenir chez nous ? Il y a plein d'explications possibles, on n'en a pas une vraiment à donner. C'est un fait, ça a baissé, on va dire, d'environ 10%, ce qui n'est pas négligeable. Et là, cette année, c'est revenu, on est de retour aux chiffres que l'on connaissait avant la crise sanitaire.
Et est-ce que vous avez aussi des étudiants ? Il y a eu pas mal de Zoom fait sur les étudiants, alors, pour qui la précarité était de plus en plus importante pendant la précarité.
Voilà, il y a des centres où on a effectivement des étudiants qui sont venus, oui, effectivement. Hein. Mais à Saint-Étienne, très peu, parce qu'il faut dire qu'à Tréfilerie, là, ils ont l'épicerie solidaire qui rend des services et qui fait en fait que les étudiants n'ont pas besoin de venir chez nous, puisqu'ils ont ce service qui est rendu sur place. Par contre, on a pas mal d'étudiants qui souhaitent devenir bénévoles chez nous. Voilà. Mais le problème, c'est que comme ils sont étudiants, ils ont des horaires qui ne correspondent pas à nos heures d'ouverture actuelles. Et du coup, ben, on est obligé de les refuser, parce qu'on ne peut pas, voilà, ils ne peuvent pas sécher les cours pour venir rendre service quand même au restaurant du cœur. Donc on étudie la possibilité d'étendre les heures d'ouverture de nos centres en soirée, 18-20h et le samedi matin. Où là, des équipes effectivement entièrement nouvelles pourraient rendre le service des restaurants du cœur.
Les bénévoles, qui sont-ils ? Ils viennent de milieux sociaux très différents ?
Ah oui, il y a de tout. C'est vraiment très représentatif de la société. Hein. C'est très très varié, c'est vraiment...
Mais il y a une envie commune, par contre, d'aider et de s'engager pour une bonne cause.
Ah, tout à fait. Ça, c'est le dénominateur commun de tous nos bénévoles. Hein. C'est effectivement l'envie d'aider et l'envie de tendre la main à ces personnes qui sont au fond du trou et dans une galère, qui ne peuvent plus subvenir aux besoins essentiels qui est de se nourrir. Quoi.
Et alors, le futur, c'est aussi l'expansion des Restos du Cœur dans la Loire avec un nouveau centre de prévu, c'est bien ça ?
Voilà, tout à fait, à Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne est l'un des plus grands centres de France. Il accueille en temps normal à peu près 1500 familles, ce qui est absolument énorme, et ce qui est très difficile à gérer, et par l'équipe responsable du centre, et par les bénévoles, parce que ça leur donne un travail énorme de préparation, de gestion. Donc du coup, je pense qu'il est indispensable de scinder ce centre en deux, et nous sommes dans la recherche en ce moment d'un local qui pourrait convenir justement pour créer un deuxième centre stéphanois. Donc actuellement, nous sommes place Chavanel, enfin à côté de la place Chavanel, et nous cherchons un local qui se situerait dans le quartier de Tarentaise, un peu dans ces coins-là, ça serait idéal. Mais bon, c'est pas simple à trouver, parce qu'il faut quand même... une certaine surface. Hein. Bon, après, donc ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain, parce qu'il y a tout à mettre aux normes, il y a tout à gérer, puisque nous sommes un établissement accueillant du public. Hein. Le projet est lancé, mais mon successeur sera celui qui inaugurera ce deuxième centre stéphanois.
Loire Mag, visage de la Loire.
Jean Gilbert est le parrain de la 3e promotion des cadets de gendarmerie. Lui qui s'est enfui de chez lui pour s'engager dans la France libre, quand il n'avait pas encore 18 ans. À 97 ans, Jean Gilbert est dans la Loire, le dernier représentant de la première division de la France libre. Savoyard d'origine, il vit aujourd'hui au Coteau auprès de ses enfants. Depuis des années, il a à cœur de témoigner de ce qu'il a vécu durant ses 3 années d'engagement, une certaine idée de son pays qui l'a conduit à s'évader 2 fois et retourner au combat immédiatement. À 1 mois environ du 8 mai, de la célébration de la fin des hostilités de la Deuxième Guerre mondiale, nous vous proposons d'entendre un extrait du témoignage de Jean Gilbert que nous sommes allés rencontrer chez lui. Un témoignage tout en pudeur, simplicité et conviction. C'est la fin de la guerre. Jean Gilbert et un camarade sont prisonniers en Allemagne. Et même avec l'idée et l'obsession de fuir, Jean a retrouvé dans les femmes et les enfants en particulier, eux-mêmes victimes, en l'occurrence des bombardements alliés, des gens comme eux.
On n'a pas eu de problème avec les civils, non. Surtout, on a eu beaucoup de femmes qui vivaient dans les caves, en somme, parce qu'ils n'avaient plus d'appartement, quoi. Et il y en a qui nous ont donné du pain. Moi, les Allemands, donc, à part les SS, mais c'était des gens comme nous, quoi. Et alors après, les Américains étaient pas loin, quoi. On n'était pas que nous, il y en avait d'autres prisonniers qui étaient là, on était, je sais pas, peut-être 500, je sais pas. Il fallait creuser pour que les chars puissent pas passer. c'était les jeunes des jeunes laitiériennes et puis les vieux. La route, elle était élevée peut-être de 10 mètres. Et il y avait un pré de ce côté. Alors nous, on marchait carrément au bord. Et puis les gardiens, ils étaient sur la route, quoi. On était déjà quatre. On prévoyait donc de se tirer. Un par un, on a sauté, puis on a roulé en bas. À ce moment-là, on a dit, bon, ben la journée, on se planque. Et puis là, on marchera la nuit, quoi. C'est ce qu'on a fait.
Vous cherchiez à aller où ?
À traverser les lignes pour être sur les Américains qui n'étaient pas loin, quoi. Enfin, ça a bien duré 3 jours quand même, quoi. Comme c'était le moment où ils mettaient les pommes de terre dans les prés, on déterrait les patates, on les mangeait crues, on buvait de l'eau. Enfin bon, on s'est quand même pas mal débrouillé, quoi. Mon copain, donc mon coéquipier, c'était un Mauricien, donc il parlait l'anglais, puisqu'il était sujet britannique, quoi. On a vu donc un Américain, alors il a parlé en anglais. On ne s'était pas trompé, donc on était dans les lignes. Là. Puis le lendemain, ils nous ont laissés dans une ville à Mannheim. Et c'est tombé au poil, parce que le lendemain, il y avait une voiture qui allait en France, et on était trois. Ils nous ont emmenés, donc il y en a un qui est resté à Nancy. Et puis alors, il ne nous restait que nous deux, quoi. Alors on devait, en Bourgogne, prendre le train. On nous a dit, vous demandez donc au chef de gare qui vous donnera les indications où se trouve votre unité. On nous a dit, ben, demain matin, 4 heures, pour aller jusqu'à Nice, parce qu'ils se battaient sur les Alpes du Sud, pour récupérer donc ce qui avait été donné aux Italiens.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Gilbert et son camarade ont été faits prisonniers à la suite de tirs plus que nourris sur leur jeep alors qu'ils étaient en Alsace pour défendre Strasbourg. Retranchés dans des caves et finalement trouvés par les soldats allemands, ils passent pour morts auprès de leur unité, la 1ère division de la France libre. Et la surprise est grande lorsque les deux évadés, désireux de poursuivre leur engagement dans les combats, arrivent du côté de Monaco après le débarquement en Provence.
Quand on se présente où il y avait donc le PC du colonel, le gars qui était de garde, il me dit « Vous n'êtes pas mort ?» Il dit « Non ». Puis il appelle le chef de poste qui fait la même chose. « Vous n'êtes pas mort ?»« Ah non, pourquoi ?» Et je suis marqué sur le truc de la division, mort, sépulture inconnue.
Ah oui, vous êtes considéré comme mort, mais il n'y a pas eu de rectification après ?
Ben non. Après, bon, ben, que, du fait qu'on était là, donc j'en ai plus entendu parler. Et puis, 15 ou 20 ans après, je retrouve un ancien qui était dans la division, qui était avec moi, quoi, un copain. Il me dit, mais t'es pas mort, non? Pourquoi? Ah ben, t'es sur le truc de la division. Vous voulez que je vous le montre?
Oui, volontiers. Alors, attendez, ce livre, c'est le livre qui rassemble le nom de toutes les personnes décédées de la 1ère DFL. In memoriam avec le monument de la Croix de Lorraine. Ah oui, Gilbert Jean, première classe, premier RA, ça veut dire quoi RA ?
Régiment d'artillerie.
11-1-45, le jour de votre mort supposée, sépulture inconnue. Vous le prenez en riant ?
Ben oui.
Finalement, la guerre se termine pour vous à quel moment, Jean Gilbert ?
Donc, on est dans le midi. Le soir, les officiers ils étaient à table parce que c'était là presque la fin des hostilités, puisque c'était au mois d'avril. Donc, ils nous ont invités donc, à table. Ils nous ont fait coucher dans une chambre, dans des draps. On a mal dormi. On était pouilleux, puis on était... Enfin, bon.
Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas dormi dans des draps ?
Quand on est en permission, mais autrement, non.
Finalement, vous vous rapatriez vous-même et donc vous rentrez en Haute-Savoie.
Voilà, voilà, oui, oui, oui.
Mais vous n'étiez jamais retourné chez vous, entre-temps ?
Ah non, 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 depuis 43, oui, oui. Et puis alors, à Annecy, il y avait une voiture avec un drapeau qui m'attendait.
Vous êtes ému aujourd'hui, mais vous avez dû l'être beaucoup aussi à ce moment-là.
Bien sûr. Ben oui, parce que bon, c'est comme ça, quoi.
Vous racontez ça comme si c'était normal, et pourtant vous avez fait preuve de beaucoup, beaucoup de courage.
Bon, ça, je sais pas. C'est pas... Peut-être, enfin bon... Il y a des fois qu'on a peur, mais enfin bon. C'était une vraie armée. Ce n'était pas l'armée d'avant où les officiers faisaient n'importe quoi.
Vous avez été très proche de vos copains, bien sûr, mais des officiers aussi.
Oui, il fallait faire son boulot. Ceux qui faisaient une connerie, ils payaient. Mais après, on n'en parlait plus, c'était fini. Nous, c'était un commandant qu'on avait directement, mais qui venait avec nous donc, quand on partait pour aller vers des buffins qui se battaient, donc pour être avec eux, pour commander les tirs, donc ils venaient avec nous. Quoi.
Il n'y avait pas quelqu'un de supérieur, ils étaient vraiment à vos côtés.
Ah ben oui, à tout point de vue, oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'était autre chose, quoi.
Vous pouvez vous dire, j'ai participé à la libération de la France ?
si avec moi, non. Mais c'est le groupe de ceux qui ont commencé tout de suite. Et ceux-là, c'était des types exceptionnels.
Et... Vous avez été décoré. Oui. C'est quoi cette décoration pour vous?
Bon, c'est pas pour ça qu'on se bat, mais enfin bon... parce que tout de suite après la guerre, même les Français libres, c'était un peu des voyous. Hein. Puis il y avait encore beaucoup dans le gouvernement des gens qui avaient collaboré. On était payés par les Juifs, ici et ça. Les... Enfin bon, dégueulasse quoi, dégueulasse.
Mais c'est pas ça qui reste dans votre tête.
Non, non, non. Bah, de toute façon, on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis finalement, j'en suis fier.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.